Pas simple à obtenir la victoire face à Caen, 1-0, un but marqué après une position de hors-jeu, même double hors-jeu. On va en parler avec notre consultant du jour, c'est Philippe Fargeon qui va nous rejoindre pour évoquer l'actualité des Mariniers Blancs. En Ligue 2, c'est de plus en plus chaud, la montée s'approche. Philippe Fargeon, bonjour.
Bonjour Alain.
Vous êtes l'invité de Bordeaux Le Mag. Alors la première question ne va pas concerner Bordeaux, c'est l'actualité chaude. Jean-Michel Aulas n'est plus président de l'Olympique Lyonnais, ça vous fait quoi ?
Ben, ça fait drôle, je pense que voilà, il avait lancé un projet avec le nouveau propriétaire, comme quoi jusqu'en 2025 il restait co-président. Ça semblait déjà bizarre comme situation, vous vendez le club que vous avez mis autant de plaisir à faire grimper parmi les grands clubs d'Europe, même si aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Faites venir un investisseur qui investit et qui vous propose de rester encore pendant 3 ans président. Ça me semblait un peu bizarre. Et bon, après, effectivement, il y a très certainement eu un désaccord entre les deux propriétaires et le propriétaire ou les deux présidents. Et puis voilà.
Qu'est-ce que vous retenez de l'ère Jean-Michel Aulas, 37 ans au pouvoir?
Je crois qu'on peut, on peut que le féliciter. D'où quand il a récupéré Lyon, ce qu'a fait Lyon, propriétaire de son club, un certain nombre de fois champion de France. Il manque à son palmarès une Coupe d'Europe qu'il aurait peut-être à des moments pu avoir. Un investissement, il a toujours été présent, il a toujours été disponible. Il a monté les footballs aussi au niveau des féminines. Hein, ils sont aussi les premiers à avoir voulu créer une grosse équipe européenne qui est multimédaillée, en tout cas multi-championne d'Europe. Donc voilà, c'est l'exemple d'un gars passionné qui a mis de l'argent, qui avait des très bonnes idées, qui a révolutionné. Pour moi, il a révolutionné le foot. Il a prouvé qu'en étant un local, on pouvait réussir à faire de grosses choses.
Jean-Michel Aulas n'est plus président, ça va être John Textor, ce sont des Américains. Bon, nous, on a une mauvaise expérience des Américains à Bordeaux. Est-ce qu'on peut craindre pour Lyon ?
Oh, on peut pas tous mettre tout le monde dans le même panier. Mais c'est vrai que voilà, on n'a peut-être pas la même mentalité économique au niveau des États-Unis qu'on peut l'avoir en Europe ou en France. On est peut-être un peu plus frileux, nous, on est peut-être un peu plus attentif à ce qui pourrait se passer. J'ai plus l'impression que les Américains, si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe pas bien, tant pis, au revoir, quoi. Et c'est un peu cette mentalité, mais on peut pas généraliser non plus. Il y a des Américains qui ont investi dans d'autres clubs de football où ça marche très bien.
Allez,
donc, il faut souhaiter, c'est ça.
On en vient aux Girondins de Bordeaux qui ont peiné ce week-end face à Caen, un but à zéro, le but de David Achvili en position de hors-jeu, non seulement sur la remise de Maja et donc le but de David Achvili. On va pas s'attarder, bon, il y a hors-jeu, si la VAR avait été là, ça aurait été signalé. Mais quand même, la prestation bordelaise n'a pas été bonne. Est-ce qu'elle peut inquiéter à 4 journées de la fin ?
Je préfère qu'elle ne soit pas bonne et qu'ils prennent les 3 points. Dire aujourd'hui, ce qui compte, c'est de finir devant Metz. Voilà. Et donc, effectivement, on préfère qu'il soit pas bon, mais que, vous savez, ça doit être stressant. 30 000 personnes, vous avez un petit peu d'avance sur Metz, qui Metz a quand même fait une bonne performance aussi à Niort, hein, faut pas l'oublier. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, il faut prendre les points. Aujourd'hui, le contrat est rempli. Alors, effectivement, un but sur hors-jeu, ok, mais. Vous savez très bien que dans une saison, ça s'équilibre. Hein. Donc voilà, c'est comme ça. Il faut à tout prix continuer. Il y a un match, je crois que c'est Kevin, le prochain match. Donc c'est une nouvelle fois, c'est des matchs où il ne faut pas perdre. Donc je crois qu'il faut, chaque match est une finale. Ils ont gagné la finale, ils n'ont pas bien joué, ils ont gagné la finale. Voilà, maintenant, on repasse à une autre finale. Donc il faut, voilà, l'objectif étant d'aller jusqu'au bout. Hein.
Philippe, ça a été la technique. Techniquement, qu'est-ce qu'on a perdu comme ballon ? Quel déchet, notamment au milieu de terrain ? Même Barbé derrière, il a 2-3 relances, compliqué.
Oui, c'est vrai, mais vous avez la pression, vous imaginez, enfin, pour l'avoir connu aussi, ce sont des moments où vous avez peur de mal faire. Vous avez c'est le cheval, quand il arrive à l'écurie, il accélère. Quand on est joueur de football, on n'accélère pas forcément, mais on panique un petit peu. On se dit, on gagne 1-0, j'espère que ça va continuer. On commence à faire des erreurs, on n'est plus aussi serein. On n'est plus aussi serein, mais je pense qu'à la fin du coup de sifflet final, il y a un soulagement commun entre les supporters, entre les joueurs, entre les dirigeants, en disant on a fait le job, même si on a beaucoup de pertes de ballon, même si voilà, voilà. Aujourd'hui, il n'y a qu'une chose qui compte, hein, c'est le résultat. Et c'est les 3 points, et les 30 000 supporters, faut pas qu'ils viennent au stade pour attendre un spectacle, il faut qu'ils viennent au stade pour voir 3 points, quelle que soit la manière.
Est-ce qu'on peut se dire, et vous semblez un petit peu le dire, effectivement, la peur de perdre ce que l'on a, c'est Stéphane Moulin, l'entraîneur de Caen, qui disait, c'est pas la peur de gagner, c'est la peur de perdre ce que l'on a déjà, et on avait justement peur de cette fébrilité qui arriverait au fur et à mesure des matchs avec un effectif jeune. C'est là où on attend plus de Barbé, de Grigersen, peut-être de Nsimba également.
Oui, très certainement, mais ils sont tous jeunes, même si certains ont une expérience un peu plus importante, ils sont tous jeunes, ils n'ont jamais connu ça. Je crois qu'il faut se rappeler, j'aime bien rappeler toujours en arrière, revenir en arrière, il faut se rappeler au mois d'août l'année dernière, au mois de juillet l'année dernière, qu'est-ce qui se passait? Ils étaient dans un club, ils ne savaient pas si le club allait déposer le bilan, ils ne savaient pas s'ils allaient perdre leur contrat professionnel, ils ne savaient pas s'ils allaient être conservés, ils ne savaient pas quelle équipe peut-être. Et d'un seul coup, on est à 3 journées ou 4 journées de la fin, et ils sont en position de monter. Donc voilà, tout ça automatiquement dans la tête, ça se remet. Ça monte en puissance, vous savez, bon, on a une bonne équipe, on va se maintenir, on va essayer. C'était pas forcément l'objectif annoncé, c'était peut-être de remonter, mais pas forcément, on n'a pas dû leur mettre la pression pour dire qu'ils sont remontés la première année. Et d'un seul coup, vous rendez compte que vous avez le Havre qui domine. Donc là, vous dites qu'il n'y a plus qu'une place. Donc c'est le scénario le plus prenant. Il ne reste plus qu'une place et ils ont un petit peu d'avance sur Metz. À 3 journées ou 4 journées de la fin. Voilà, c'est tout à fait normal et je suis d'accord. C'est pas la peur de gagner, c'est la peur de perdre et de perdre tout l'acquis. Parce que ça va très vite, hein. Vous perdez Metz Cannes. On n'est plus du tout dans la même situation. Hein. Là, ils sont dépendants. Ils dépendent le résultat, ils dépendent que d'eux.
C'est un avantage, justement, d'être dépendant de soi-même. C'est-à-dire, on a 3 points d'avance et on sait que si on gagne, de toute manière, ils ne pourront pas nous rattraper. C'est un avantage?
Je pense que c'est surtout un désavantage d'attendre de mettre, de savoir qu'il faut un faux pas de l'équipe pour pouvoir passer devant. Donc effectivement, c'est un avantage. Alors après, c'est avec ce qu'on dit jusqu'à maintenant, avec cette peur de le perdre. Mais je pense qu'à ce moment-là, je préférais être dans la situation, et tous les joueurs préfèrent être dans la situation de Bordeaux, c'est de mettre. Vous n'êtes plus dépendant de vous, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, vous finissez un match, c'est pour ça que match de camp, vous êtes dépendant de vous-même, match de camp, vous gagnez, voilà, vous avez fait le job. Maintenant, à Metz, ils ont dû se dire, ah ouais, ils ont peut-être pas bien joué, mais ils ont pris les 3 points comme nous, quoi. Voilà, donc c'est pas compliqué, hein, c'est simplement, voilà, vous êtes dépendant de vos résultats, et il n'y a que vous qui pouvez savoir si vous gagnez tous vos matchs, vous montez.
David, David Guillon avait mis un 4-4-2 en place sur les précédents matchs. Là, il revient à un 4-3-3. C'est quoi? C'est pour maintenir tout le monde?
C'est possible de maintenir tout le monde. Ça peut aussi, ça peut être aussi sur certaines remarques qu'il a pu faire sur les matchs précédents où il y avait peut-être un coup de moins bien, ou au contraire quelqu'un qui avait montré qu'il pouvait effectivement rentrer dans le nombre de départ. Et puis il y a aussi à ce moment-là, il faut savoir, et c'est le propre des équipes aujourd'hui, c'est de s'adapter à l'adversaire. Vous êtes contre Caen. Caen, je vous rappelle qu'ils faisaient partie des prétendants à la montée, et que quand vous rencontrez des équipes qui sont prétendantes à la montée comme ça et qui en fin de saison n'ont pas forcément fait une bonne saison, vous avez un certain nombre de joueurs qui veulent se faire voir. Parce que peut-être qu'ils ont envie de partir. Donc voilà, il faut savoir aussi s'adapter à l'équipe adverse. Et je pense que c'est aussi pour ça d'avoir une autre solution, peut-être de préparer les matchs qui seront un peu plus tendus. Parce que plus vous approchez de l'écurie, plus c'est tendu. Donc je pense que voilà, il faut pouvoir être capable d'apporter plusieurs solutions de système de jeu.
Justement,
quand un adversaire de Girondin, ils ne sauront pas comment on va jouer Bordeaux.
Pour éviter la pression que l'on peut se mettre dans le sprint final, elle sera indéniablement là, ça, on ne peut pas l'éviter, mais qu'est-ce qu'il faut faire en plus? Qu'est-ce que le staff doit faire? Qu'est-ce que les joueurs doivent faire? Vous avez connu ces périodes-là?
Oui, j'ai la chance de monter effectivement avec Girondin. Plusieurs fois, pas qu'avec Girondin d'ailleurs. Écoutez, ce qu'il faut faire, c'est continuer à y croire. C'est d'avoir confiance en soi. D'avoir confiance en soi et puis d'aller chercher. Il faut pas douter parce que le doute n'apporte rien de bien dans ce genre de situation. Il faut vraiment continuer à y croire, prendre le match après match. Prochain match à l'extérieur, il faut savoir gérer ça correctement. Et plus vous gérez, plus vous approchez et moins vous donnez de chance à l'équipe de Metz de revenir. Et puis aussi, enfin, on peut aussi compter, on a un petit joker qui peut aussi, eux, peut se permettre de faire des erreurs aussi, parce qu'ils n'ont pas une fin de saison aussi facile que ça.
Est-ce que cela peut passer aussi par des entraînements un petit peu plus distrayants, entre guillemets?
C'est possible, mais il faut faire attention, parce que quand c'est distrayant, c'est, quand vous êtes un peu, vous savez, une blessure arrive toujours au moment où vous êtes le plus décontracté. Donc je crois qu'il faut motiver tout le monde, il faut, enfin, je veux dire, c'est une situation où tout le monde a envie de jouer, mais tout le monde, même ceux qui ont très peu joué, à la fin de l'année, si l'équipe monte, ils auront un trophée, enfin, ils auront un palmarès. Mais je crois que voilà, ça c'est je crois que c'est ce qu'il faut mettre dans la tête des joueurs, que même si t'as pas été bon, ou même si aujourd'hui t'es plus titulaire, ou même si, bah, à la fin, dans le palmarès, t'auras une montée avec les Girondins de Bordeaux. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler, sur cette opportunité. Vous avez 18 équipes ou 20 équipes qui chaque année essayent d'avoir des trophées. En Ligue 2, vous n'en avez qu'un de trophée, parce que la Coupe de France, c'est un peu plus compliqué. Vous n'avez qu'un seul de trophée, c'est celui de la montée, d'être champion de Ligue 2 ou la montée. Donc voilà. Donc eh ben, vous commencez, vous avez toutes les équipes qui au début espèrent avoir ça, et vous êtes à 3 matchs ou 4 matchs de le faire. Donc je crois que c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Vous pouvez rentrer dans l'histoire des journaux.
Philippe Fargeon, invité de Bordeaux Le Mag. Bordeaux, pour la dernière fois, va jouer avant Metz, puisque après, ça sera pas le cas. On jouera en même temps, et les deux dernières journées aussi. On va aller à Quevilly samedi à 15h. Les Messins, de leur côté, vont recevoir à 19h Grenoble. Est-ce que jouer comme ça avant, ça donne un petit avantage, surtout si on le réussit, ça met la pression sur l'adversaire?
Ah ben c'est sûr que si vous gagnez, déjà sur le classement, vous voyez, si vous gagnez, vous avez beaucoup plus de points. Et c'est surtout que ça oblige les autres à gagner. Maintenant, si vous perdez des points, ça va motiver l'équipe adverse. Donc aujourd'hui, effectivement, le championnat étant comme ça, mais je crois que c'est quand même mieux que ce soit Bordeaux qui joue devant, parce que si Grenoble joue avant, au classement, il repasse devant, même s'il y a un Bordeaux un match de retard, il faut le jouer le match de retard. Donc c'est pour ça que c'est mieux aujourd'hui comme ça, et qu'après, ça sera les dernières journées, comme habituellement, pour éviter toute cette triche, à la même heure, au même moment, à la même heure, le même jour.
Ça va se jouer véritablement jusqu'au bout, ou est-ce qu'on peut penser qu'à partir de la 36e et 37e, où les Messins vont jouer Guingamp et Sochaux, même si Sochaux cale, ça peut tout changer le championnat?
Je pense que si dans les prochains matchs, une défaite de Metz, si nous on perd pas, le championnat, ça sera dur de pas monter. Voilà, donc ça peut jouer, chaque journée se peut jouer, si Metz se perd, si Bordeaux perd des points, alors là on peut aller jusqu'au bout. Mais si Metz se perd la semaine prochaine, alors même si c'est Grenoble, même s'il laisse encore un ou deux points comme ils ont laissé la semaine dernière, là ça va être beaucoup plus dur pour Metz, parce que là ils ont beaucoup du mal à y croire.
Bordeaux se rapproche de l'Everest, de ce sprint final, de cette montée. On sent que le public est derrière. Bon, voilà, on a retrouvé quand même de l'engouement autour de cette équipe, en espérant bien sûr qu'au bout, il y a le Graal.
Oui, bien sûr. Il y a 30 000 personnes. Ligue 2, je veux dire, c'est un club qui n'a rien à faire en Ligue 2. Donc les gamins qui sont là aujourd'hui, le staff, etc., ils sont en train de faire le job. Et je crois que comment voulez-vous ne pas être heureux de revoir le club à sa place si jamais il monte, avec des jeunes qui à qui on n'aurait pas donné forcément la chance en Ligue 1 si jamais ils étaient restés en Ligue 1. Donc voilà, je crois que c'est important, et puis ça redonne du blason à Bordeaux. Bordeaux a un beau stade, Bordeaux a une belle équipe, une belle histoire. Il manque plus que des supporters incroyables, que ça soit au niveau des virages, même des entreprises, ou au niveau des personnes qui vont. Moi, je vois de plus en plus de personnes, comme j'ai toujours dit, pendant cette période de disette, les gens n'osaient même plus me parler de football. Mais aujourd'hui, maintenant, première chose qu'on parle, c'est les Girondins. Donc, j'ai l'impression qu'on revient comme il y a 15 ans, 20 ans en arrière. Ça c'est magnifique, magnifique.
Avec tout cet espoir donné. Avec tout cet espoir donné par les joueurs, les jeunes joueurs bordelais, si on touche du bois, on espère que ça se passera pas, mais s'il devait y avoir échec, on va retomber de haut?
Pas forcément, parce que c'est là-dessus où il faudra construire. Alors c'est sûr que c'est très difficile pour monter la première année, parce que si vous remontez pas, c'est très difficile. Mais on pourra pas leur reprocher d'avoir fait le maximum, de repartir. Après, il va falloir comprendre, si par hasard ça se passait pas, mais j'ai pas envie d'y croire, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé sur les derniers matchs? Qu'est-ce qui a fait que ce club n'a pas pu? Très certainement un équilibre un peu entre jeunes, et puis un peu plus expérimenté. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, je pense qu'il faut surtout que à y croire jusqu'au bout. Et puis par contre, voilà, remonter cette année. Après, on redémarre sur des bonnes années avec une équipe compétitive, renforcée par des gens un peu plus, des joueurs un peu plus expérimentés, complémentaires. Mais pour l'instant, il faut laisser. Enfin, c'est dur de tirer des plans sur la comète alors qu'on est tout le monde est dans l'incertitude de savoir s'ils vont réaliser. C'est quasiment un exploit hein, quand on réfléchit ce qui s'est passé en juillet.
Qu'est-ce qui vous a plu, Philippe, tout au long de cette saison?
C'est la discrétion de cette équipe qui petit à petit a su se faire aimer et qui a apporté autour d'elle un engouement qui montait en puissance de match en match. Voilà, avec des matchs moins bons, on avait l'habitude d'avoir des matchs moins bons, mais avant, quand on avait des matchs moins bons, on disait « Ah, les journaux, c'est mauvais, etc. » Là, ils ont moins bien joué. Voilà. Mais voilà, on est derrière, tout le monde est derrière, et je crois que c'est, ils ont réussi discrètement, sans star, à se faire aimer du public à nouveau, à gagner, à jouer les premiers rôles, c'était pas donné, hein. Et donc, je pense qu'ils ont réussi à se faire aimer. Il y a des gens qui n'allaient plus que voir le rugby ces temps-ci, qui vont maintenant continuer à aller voir le rugby, tant mieux, mais vont voir aussi les journaux. Donc, je crois que c'est ce côté-là qui est important, c'est qu'ils ont redonné du plaisir à venir au match. Et même si le spectacle, comme ce week-end, n'est pas à la hauteur, 30 000 personnes en Ligue 2.
Pour terminer, Philippe, est-ce que les dirigeants doivent s'appuyer sur cette saison pour bâtir leur futur projet sur les années à venir? C'est-à-dire que ben, on démontre qu'avec des jeunes, même si c'est en Ligue 2, on peut faire des choses. Est-ce qu'on ne pourrait pas reproduire ce modèle en Ligue 1? Vous disiez sans star, cette équipe.
Ben, bien sûr, mais il faut surtout, enfin, je veux dire, c'est, ça se fait pas comme ça. C'est du travail de longue haleine. C'est-à-dire qu'il faut repartir dans les clubs locaux, il faut repartir dans les clubs d'Aquitaine, de Gironde, de Lot-et-Garonne, de Pyrénées, enfin, tous les départements qui sont autour, avec une image redorée, avec des joueurs. On peut prouver qu'aujourd'hui, on peut être un jeune déjà en centre de formation des Girondins et puis exploser et se retrouver en Ligue 1. Et c'est tout un travail de fourmi à refaire. Parce que ça passe par là. Et puis effectivement, ce qui avait été mis en place il y a des années, qui a été abandonné, tous ces représentants locaux des Girondins de Bordeaux qui vont suivre des matchs, des gamins de 12, 14, 16 ans. Alors je sais que ça continue, mais il y en aura encore plus. Voilà. Mais cette fois, c'est beaucoup plus facile quand on a une image positive, une belle image. Quand vous allez avec une carte de visite Girondins de Bordeaux en Ligue 2, 30 000 personnes, vous avez beaucoup plus de facilité peut-être à dire aux parents des joueurs « Venez à Bordeaux, vous verrez, il y a de l'opportunité. » Voilà, je crois que c'est là-dessus qu'il faut continuer à travailler parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter des joueurs. Voilà, on n'a pas les moyens d'acheter des joueurs que le Paris Saint-Germain achète, que Marseille achète, etc. Donc, si on n'a pas cette idée-là, il faut passer par une autre solution.
Philippe Fargeon était notre invité dans ce podcast de BordeauxLeMag.fr. Sur le site, vous retrouvez l'interview de Christophe Dugarry qui parle de ses années Bordeaux. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast pour cette saison bien particulière des Girondins en Ligue 2.